Il est fondamental que chacun d'entre vous choisisse en précisant ce que vous désirez changer. Si vous marchez à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose. Et cette chose, nous pouvons vous la fournir.
Espace public est un cycle de 10 rencontres débats proposés de janvier à mars 2008 par le Master Projet Culturel dans l'espace public de l'Université de Paris 1, la Sorbonne, en partenariat avec Hors les Murs, Centre National de Ressources des Arts de la Rue et des Arts du Cirque.
Bonsoir à tous. Pendant que nos invités s'installent, je vais juste dire deux, trois mots d'introduction. Donc, c'est la dernière rencontre du cycle Art Espace Public. On a souhaité parler de la surveillance, une question ancienne qui a pris des formes variables dans l'histoire et qui a sans doute une acuité particulière depuis quelques années avec l'essor des technologies de surveillance, mais pas uniquement. Le 11 septembre, les émeutes urbaines d'octobre 2005 ont contribué probablement en France en particulier et en Europe occidentale à donner à cette question de la surveillance une acuité nouvelle. La surveillance, c'est la surveillance visible, celle des caméras dont on va beaucoup parler ce soir, mais pas uniquement, ce sont aussi les puces RFID dont il sera sans doute question, les passeports biométriques, tous les systèmes de traçage des personnes, de quadrillage de l'espace public. Il y a 300 000 caméras en France, peut-être plus d'ailleurs, les chiffres sont débattu. En Grande-Bretagne, on va en parler sans doute avec Manu Lux qui vit à Londres et qui est avec nous ce soir, il y a plus de 4 millions, peut-être plus de 5 millions de caméras. Mais encore une fois, la surveillance n'est pas uniquement visible, ce n'est pas uniquement l'image et on évoquera sans doute aussi d'autres dimensions de la surveillance. Ça n'est, cela dit, pas notre sujet. Notre sujet, vous le savez, c'est la manière dont les artistes travaillent cette question, travaillent à partir de ces questions.
Bonsoir. Les artistes sont nombreux à se préoccuper de ces thèmes et nous avons choisi de vous présenter quelques projets ce soir, entre autres, puisque les projets sont beaucoup plus nombreux. Vision de citoyens sans visage errant dans les rues de Manu Lux, dans les rues de Londres par la main de Manu Lux, donc dans Faceless. Expérience d'une visite des systèmes de sécurité de musée par Renaud Gus Dormeuil ou encore théâtre d'intervention sur la question des drones par le collectif Art is not dead. Ces créations interrogent la place de l'individu dans ce contexte de l'information omniprésente, dénoncent ces techniques de contrôle, tentent de rendre visible leur généralisation ou encore proposent des actions de détournement. Enfin, cette rencontre serait également l'occasion de nous interroger sur notre propre part à nous, individus, de complicité dans cette surveillance. Le web 2.0, le partage de vidéos sur Internet ou peut-être même les webcams ou autres dispositifs exacerbés dans les émissions de télé-réalité à la Big Brother nous rendent-ils complices de cette société de contrôle ? Pour débattre de ces questions, nous avons avec nous deux artistes, Manu Lux, cinéaste qui nous vient de Londres, et Renaud Auguste Dormeuil, artiste plasticien que nous avons le plaisir finalement d'avoir avec nous. Et un critique d'art, Nicolas Telli et Eric Heilmann, chercheurs sur les questions de la surveillance. C'est avec vous, Eric Heilmann, que vous proposons de commencer la rencontre, pour un peu poser le cadre de notre réflexion. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, Louis Pasteur.
C'est vrai.
Et vos recherches portent sur l'usage policier des technologies de l'information et de la communication.
C'est juste.
Voilà.
Vous êtes bien renseigné.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est la première chose que je voudrais dire, parce que je n'ai pas trop monopoliser la parole, mais il me semble que dans le champ des technologies de surveillance, il y a vraiment un changement qui a été induit, à mon sens. Je suis prêt à prendre le temps de le démontrer, mais je n'ai pas le temps. Je rappellerai juste trois idées, à mon avis, qui pourraient expliquer qu'on est rentré dans ce que, je paraphrase Michel Foucault, dans une nouvelle économie de la visibilité. Je crois vraiment qu'on est entré dans une nouvelle économie de la visibilité, parce que jusque-là, lorsque les polices s'interrogeaient sur ce que sont les gens, ce qu'ils font, voulaient les surveiller, les contrôler, les identifier, ils mobilisaient essentiellement ce que moi j'aurais tendance à appeler des dispositifs d'écriture. On a créé des fichiers, des grands herbiers de police. On note des noms, des faits, des choses. On a confié aux citoyens et aux passants des papiers d'identité qu'ils doivent porter avec eux. On sait des papiers, des passeports, des livres ouvriers autrefois, etc. Et on s'est intéressé aux informations qu'ils avaient inscrites sur leur corps. On s'est intéressé à leurs empreintes, aux empreintes digitales, aujourd'hui aux empreintes génétiques. Mais chaque fois qu'on pense à ces technologies de l'écriture, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que ces technologies, lorsqu'elles se sont diffusées dans la société, ont toujours fait l'objet d'une certaine résistance. Il y a eu de la résistance à l'écriture. Ça ne s'est jamais passé simplement. J'aime bien rappeler une chose, parce qu'on parle de la rue. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a Parent du Châtelet, c'est un écrivain qui s'intéresse aux mœurs, à la vie à Paris, qui avait noté, par exemple, que lorsque la police parisienne avait délégué à des ouvriers le soin de mettre des noms au coin des rues et de numéroter chaque maison, la population s'est révoltée. Au fond, ces ouvriers ont dû subir des colibés, ont même été parfois agressés, au point qu'ils ont dû travailler la nuit. Parce que la population sentait bien que ce travail d'écriture, cette codification de l'espace, était quelque part une menace pour leur liberté. C'était peut-être une façon de plus facilement les repérer et de les retrouver le cas échéant. Et on pourrait raconter plein d'histoires comme ça. Dans un roman de Kundera, je ne sais pas si vous connaissez sans doute le roman de Kundera, L'insoutenable jeté de lettres, Kundera raconte, mais c'est vrai, ça s'est passé vraiment lors du printemps de Prague, les Pragois, lorsque les Russes ont débarqué, lorsque l'armée russe a débarqué, soviétique, a débarqué dans les rues de Prague, un des premiers réflexes des Pragois, ça a été justement de mettre des bandeaux au nom des rues, faire en sorte que l'armée russe ne soit complètement perdue dans cette ville, perd tous ses repères. Et on pourrait comme ça émailler toute l'histoire des technologies de contrôle et de surveillance en ayant l'esprit que ça ne s'est jamais passé simplement. Il y a toujours une sorte de résistance ou des ruses développées par les gens pour échapper à ces inscriptions. Et moi, ce qui me fascine aujourd'hui, moi je suis ravi qu'il y ait des gens autour de moi, et des artistes en particulier, qui soient sensibles à ces questions, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression aujourd'hui qu'avec la vidéosurveillance, premier changement, eh bien que ça se passe dans une relative indifférence. Et si ce n'est pas de l'indifférence, c'est quasiment de l'adhésion. Je rappelle quand même, je donne juste un chiffre, j'ai encore le temps, il y a 10 ans, en France en tout cas, il y avait une soixantaine de communes seulement qui a fait le choix d'installer des caméras dans ces espaces publics, 60 communes en 98-99, aujourd'hui il y en a plus de 600. Et que je sache, mis à part quelques minorités militantes, mis à part quelques artistes, mis à part quelques universitaires égarés, à Paris ou à Strasbourg ou ailleurs, ça n'a pas suscité de grandes vagues de protestation. Au fond, les gens se sont habitués. Ça, c'est la première remarque. J'ai l'impression que là, il y a un changement. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes de citoyens, de promeneurs, pour que la présence de ces caméras ne nous interpelle pas beaucoup plus? Pourquoi faut-il attendre l'intervention, le geste d'un artiste pour que finalement on se pose et on réfléchisse un tout petit peu à ce qui se passe? C'est ma première remarque. La deuxième chose qui me paraît aussi intéressante, c'est que, et c'est pour ça que j'aime bien parler d'une nouvelle économie de la visibilité, c'est un autre changement important, c'est que quand je vous parlais de fichiers de police, ceux qui entrent dans les fichiers de police jusqu'à maintenant ou autrefois, il y a un tri, il y a une sélection. La police n'a pas les moyens, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de ficher tout le monde. Mais les caméras de surveillance, il n'y a pas de tri. À partir de l'instant où on entre dans le champ de vision d'une caméra, on est enregistré. Et c'est pas rien. Je veux dire que ces caméras traitent, si je ne me trompe pas, 24 images par seconde. Dans une journée, une caméra, ça fait un ou 2 millions d'images. Si dans une ville, il y en a 10, 20, 30, 50, à Strasbourg, il y en a 210, faites le calcul du nombre d'images qui sont captées jour après jour. Jour après jour. Qu'est-ce qui se passe là, avec cette masse d'informations qui sont collectées? Et la troisième chose, et c'est juste le dernier point qui me laisse penser qu'on est, pour introduire un peu le débat, troisième chose, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, derrière ces caméras, et c'est vrai à la fois en France, mais c'est vrai aussi en Grande-Bretagne, mais c'est vrai aussi en Allemagne et partout en Europe, dans les pays riches, ceux qui sont derrière ces caméras, ce ne sont pas des polices publiques au sens traditionnel du terme. Ce sont pour l'essentiel des agents privés de sécurité. Ce n'est pas des big brothers, c'est une somme de little brothers. Et ce sont aussi des espaces où les frontières entre le privé et le public, à mon sens, sont tout à fait brouillées. La loi dit qu'il faut déclarer les systèmes dans les espaces publics et dans les espaces privés ouverts au public. On pense à des commerces. Et puis tout le reste, ça ne nous regarde pas. Cela dit, dans une copropriété, dans un HLM où il y a 1000, 2000 locataires, dans une école où il y a 1000, 2000, 3000 gamins qui viennent travailler tous les jours, dans une usine, une entreprise où il y a 1000, 2000 salariés, est-ce que vraiment on est dans un espace privé au sens où les juristes l'entendent? Donc là, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se brouiller, c'est ce brouillage de la nature même des espaces, qui, à mon avis, on en a une définition juridique à l'esprit, mais ça ne correspond plus, à mon sens, à l'usage sociologique qu'on peut en avoir.
Alors, on va plus s'intéresser à des artistes, quoi, des travaux d'artistes. Donc, Nicolas Telly, vous êtes critique d'art, mais également maître de conférences à Paris Panthéon Sorbonne. Vous êtes l'auteur de Vue à la webcam, essai sur la web intimité, paru en 2002, et Corps, art, vidéo et numérique, paru en 2005. Donc, on voulait vous demander de revenir un moment sur l'évolution des travaux d'artistes, sur la surveillance. Et comment finalement, à travers les décennies, ce sujet est-il pris en compte? Qu'est-ce qui différencie les projets dont vous allez nous parler?
Bonsoir. Alors, je ne sais pas si je vais faire une histoire de la vidéosurveillance ou de la surveillance dans l'art. Je pense que là aussi, il faudrait toute une soirée. Je vais plutôt revenir à ce qui s'est passé dans les années 70, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de la vidéosurveillance dans l'espace public concorde aussi avec l'arrivée de la vidéo dans les salles d'exposition et dans les pratiques artistiques. Pour la petite histoire, un artiste comme Bruce Nauman va découvrir l'utilisation et surtout l'idée, enfin, le système du circuit fermé. Le système du circuit fermé, c'est le principe de base de la vidéosurveillance dans une vitrine de magasin de vidéos. C'est comme ça qu'il va s'intéresser essentiellement à la vidéo. Donc ça se passe dans les années 70. Bruce Nauman, qui est plutôt sculpteur, va acquérir une caméra et va se lancer dans une période d'observation de soi, et ça se passe dans son atelier. Alors, ce qui s'est passé, là, nous avons trois images. L'image du haut, en fait, c'est une performance qu'il a réalisée et qui s'appelle Bouncing in the Corner, je crois. Je me trompe d'ailleurs. Enfin bref, il marche dans un corridor qu'il a fabriqué. C'est un corridor d'une dizaine de mètres en bois et qui fait 50 cm de large. Et tout le principe, c'est de marcher en touchant avec les hanches les parois du corridor. Et ce qui est étrange, donc là il n'y a pas de vidéo, mais c'est que cette paroi, ce corridor en bois, lui a servi en fait d'installation qu'il a exposée telle quelle lors d'une exposition. Donc ça, c'est pour vous montrer que ça ne vient pas forcément de la vidéosurveillance, mais qu'on est dans un autre registre. Par contre, il va utiliser le même dispositif, donc ce corridor d'une dizaine de longueurs, enfin d'une dizaine de mètres de longueur et de 50 cm de large, dans une autre installation, cette fois-ci vidéo, qui est en circuit fermé. Il y a une caméra qui est fixée donc au plafond et qui va filmer donc dans la perspective. Et au bout du couloir, vous avez deux moniteurs vidéo. Le moniteur qui est sur le sol transmet une image qui a été enregistrée et l'image en fait du corridor vide. Et le moniteur du haut transmet l'image en direct de la personne qui va rentrer dans ce corridor. Et ce qui se joue en fait, plus le spectateur va approcher du moniteur pour apercevoir son image, plus son image à lui va lui échapper et va être petit dans l'écran en fait. Donc il y a cette sorte de distanciation qui se joue. Et donc c'est ça qui est intéressant avec l'idée et l'arrivée de la vidéo on va dire, dans les pratiques artistiques, et notamment la vidéosurveillance, c'est que la vidéosurveillance va devenir le système de référence, et elle va permettre d'explorer autrement justement la question de l'espace privé, la question de l'espace public, leur réversibilité, ou plutôt la réversibilité des espaces. Donc ça, c'est une installation qui date des années 70. Et il y a une autre performance dont j'aimerais parler pour aller très vite, qui est l'œuvre de Mona Hatoum. Donc c'est la seconde planche. Merci. C'est une performance, cette fois-ci, qu'on pourrait qualifier de vidéo-performance. Le titre est « Don't smile, you're on camera ». Ça date de 1980. Et donc ça veut dire, bien entendu, « Ne souriez pas, vous êtes filmé ». Le principe est le suivant. Mona Hatoum est dans une salle, un petit peu comme ici. Elle est équipée d'une caméra. Porte à pack, elle filme l'assistance et a priori les images sont retransmises en direct sur le moniteur qui est à côté d'elle. Donc elle passe en revue comme ça les spectateurs, ils se voient et ils ont d'une certaine manière confiance en l'image. Ce qu'elle filme, c'est d'une certaine manière la réalité. Et puis, d'un seul coup, la perception va glisser et on va se rendre compte qu'il y a d'autres images qui apparaissent. Que quand elle filme, par exemple, une jeune femme, à un moment donné, celle-ci ne sera plus forcément habillée, elle sera dévêtue, etc., que la caméra peut voir peut-être à travers les vêtements, voire au-delà, aller jusque à l'anatomie. Donc il y a une sorte de glissement perceptif et les spectateurs se rendent compte que finalement ils n'auraient pas dû croire en l'image, qu'ils n'auraient pas dû croire dans le dispositif, que le dispositif n'est pas forcément en circuit fermé, qu'il y a un trucage, un escamotage. Et en effet, les images qui sont diffusées proviennent d'une salle qui est à côté de la salle où se joue la performance et où il y a en fait des complices de l'artiste qui se filment et qui superposent en direct leurs images sur les gens qui sont filmés. Voilà, donc ça c'est deux choses qui me semblaient assez emblématiques. D'un côté la vidéosurveillance qui va apporter le circuit fermé dans l'espace d'exposition, et de l'autre côté la vidéosurveillance qui va permettre aussi de déjouer les images lors de vidéo-performance. Merci. En tout cas, ce qui est intéressant, je vais peut-être finir avec ça, c'est que la vidéo dans les années 70, si elle est le dispositif de référence, elle a à voir avec le panopticon de Bentham, et c'est ce que Anne-Marie Duguay dit à un moment donné dans un de ses articles qui, à mon avis, fait référence aussi, qui s'appelle « Dispositif », c'est que la vidéo vient parachever ce panopticon, parce qu'elle apporte l'automatisation du regard, l'invisibilité de l'observateur, et aussi, ce qui est important, la circularité du dispositif, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un régime d'image en circuit fermé.
D'accord, merci beaucoup. Donc après la présentation de ces deux projets inscrits un peu dans l'histoire des œuvres qui s'intéressent à la surveillance, nous vous proposons de nous attarder un peu sur le travail de Renaud-Auguste Dormeuil. Renaud-Auguste Dormeuil, vous êtes artiste plasticien et vous abordez les thèmes de la surveillance dans de nombreuses de vos œuvres, Et en ce qui concerne votre actualité, votre œuvre Contre-projet Panopticon, donc qui peut-être vous allez en parler, je ne sais pas, est actuellement visible à la galerie Motte-et-Roire, tout comme le film de Manu Luksch à Paris. Et votre vidéo surveillance du voisin d'en dessous est visible à Beaubourg, dans la collection multimédia Nouveaux Médias.
Alors la vidéosurveillance, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là pour la simple bonne raison, c'est qu'un jour je suis sorti de chez moi. J'étais encore étudiant en Beaux-Arts et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas sortir de chez moi sans passer devant une caméra de vidéosurveillance. Alors de là, évidemment, la question m'a tracassé. Je me suis dit, tiens, c'est amusant, combien de caméras de vidéosurveillance existent-ils en fait autour de chez moi, et comment je vais pouvoir faire un moment pour savoir comment je pourrais aller à l'école sans passer devant une caméra de vidéosurveillance. Donc le premier travail que j'ai fait sur la vidéosurveillance consistait simplement à répertorier toutes les caméras de vidéosurveillance de mon quartier et après d'autres quartiers les uns après les autres. Il s'est avéré que le premier travail que j'ai fait, c'était donc simplement des cartes avec des itinéraires pour proposer aux gens, pour leur permettre d'aller de leur domicile à leur lieu de travail sans passer devant des caméras de vidéosurveillance. Alors après, bien évidemment, plein de questions sont arrivées à moi par ce biais-là, et j'ai commencé à regarder comment en fait fonctionnait la surveillance et qui organisait cette surveillance. Alors je vais mettre une chose, établir quelque chose dès le départ dans mon travail. Moi je suis artiste, donc je travaille sur le plastique, c'est-à-dire l'esthétique, la beauté, etc. Et je m'interroge toujours dans l'art plastique ce que signifie en fait la représentation. Donc je prends un peu l'image un peu idiote, vous allez me dire, qui est un peu comme celle de l'adolescence. L'adolescent exprime une violence, l'exprime de façon physique, et moi je pense toujours qu'en fait cette violence exprimée est proportionnelle à une violence qui est perçue et qui est reçue. C'est un peu comme quand vous faites pincer, si on vous pince pas fort, vous criez pas fort, si vous criez très fort, c'est qu'on vous pince très fort. Donc le cri est proportionnel à la douleur que vous recevez. Et quand j'ai commencé à regarder cette organisation de la vidéosurveillance, je me suis rendu compte de la froideur en fait, et de cette forme d'invisibilité dont on parle depuis le début, et de cette organisation qui en fait n'est pas visible quand on regarde simplement une caméra de vidéosurveillance. Et je me suis dit, si on remonte le film dans l'autre sens, ce serait intéressant de savoir comment ceux qui organisent cette vidéosurveillance, exactement comment ils l'organisent. Donc en fait, après avoir répertorié, je me suis intéressé à savoir qui répertoriait les images et qui récoltait les images de vidéosurveillance. Donc en fait, le principe, une des premières œuvres était simplement de prendre les itinéraires de manifestations. Et vous savez, quand vous organisez vous demandez l'autorisation de pouvoir faire une manifestation à Paris, vous devez demander à la préfecture de police. Et en général, la préfecture de police donne pour les grandes manifestations à peu près 3 ou 4 itinéraires. Alors c'est de Bastille, de la place d'Italie à d'Enfer Rochereau, en passant par le boulevard Raspail, etc. Et donc en fait, j'ai repris ces itinéraires-là, et à l'époque, en fait, j'ai repris les visuels qu'on avait dans les bus, dont on parlait tout à l'heure, où maintenant il y a 7 caméras de vidéosurveillance, et simplement en reprenant exactement le même visuel, mais au lieu d'avoir vos arrêts de bus, en fait, ce sont les caméras de vidéosurveillance qui sont présentes sur les itinéraires autorisés par la préfecture de police. Donc en gras, là, je ne sais pas si on voit la petite manette, mais en gras, en fait, ce sont les caméras de vidéosurveillance de la préfecture de police. Et quand vous avez un fond blanc, en fait, c'est les caméras de vidéosurveillance qui sont, elles, privées. Quand on parle, évidemment, d'être surveillé, l'idée, c'était de me dire, moi, puisque je suis surveillé, je vais surveiller ceux qui me surveillent. Donc, quand j'ai commencé à noter toutes les caméras de vidéosurveillance dans les rues, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour noter aussi les plaques minéralogiques des voitures banalisées de la police de Paris, celles qui patrouillent, donc, sans qu'il y ait de logo police écrit dessus. Donc, j'ai commencé à répertorier l'ensemble de ces plaques minéralogiques. Après, j'ai commencé à faire des envois, parce qu'il y avait aussi un autre caractère qui m'intéressait, c'est que moi, j'étais un jeune artiste, et que les jeunes artistes sont évidemment aussi surveillés par les jeunes curateurs pour savoir s'ils vont devenir des bons artistes. Donc, le premier de mes travaux que j'ai fait, que j'ai fait avec les curateurs, c'était justement de les surveiller aussi à leur tour. Donc, en fait, je leur envoyais des messages en disant « Vous êtes surveillé par telle voiture de police. » Après, c'était une deuxième carte en disant « Vous êtes passé tel jour devant telle caméra de vidéosurveillance. » Et le dernier des travaux que j'avais fait, c'était c'était d'envoyer, en fait, une photo de leur digicode avec ma main devant et juste un petit mot qui disait « Pourquoi ne parlez-vous jamais de mon travail? Nous sommes pourtant si proches l'un de l'autre. » Donc, l'idée, en fait, c'était pas évidemment de leur faire peur, c'était de conditionner. Nous, les artistes, nous conditionnons bien souvent, nous faisons de la mise en scène parfois, et l'idée, en fait, c'était réellement de mettre en image la peur et non pas de faire peur. Voilà. Donc le principe, en fait, c'était de savoir comment après on travaille avec cette information et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué, parce que si vous diffusez ce type d'information sur Internet ou autre part, vous pouvez être attaqué après pour trouble à l'ordre public. Donc l'idée, en fait, c'était de ne pas diffuser l'information. Moi, je suis pas un journaliste, c'était d'en faire une œuvre plastique. Donc le principe était simple, il suffisait d'acheter des petites majorettes, vous savez, c'est les petites voitures que l'on achète quand on est enfant. C'est compliqué parce que vous pouvez pas en trouver des blanches, parce que ça se commercialise que en couleur. Donc j'ai fait faire en blanche, et sur chaque petite voiture, en fait, j'ai mis la plaque minéralogique d'une voiture banalisée de la police de Paris. Alors, je les ai renommées de majorettes, elles sont devenues des Mabusettes, évidemment, grâce au docteur Mabuse, qui était une référence pour moi, et la galerie était fermée au public, j'avais interdit, en fait, l'accès de la galerie, et tous les jours, en fait, il y a une caméra de vidéosurveillance que vous voyez là, qui était déplacée, juste pour donner une plaque minéralogique, et comme elle était un tout petit peu inclinée, la caméra, ça permettait, en fait, de s'imaginer d'être dans un parc automobile, en fait dans un parking de la police. Bon, je fais vite parce que hors champ, hors limite, c'est une performance. C'est une performance que j'ai faite, qui était à Beaubourg. À Beaubourg, il y a 5-6 ans, il y a une exposition qui s'appelle Hors champ, hors limite. Et, enfin non, qui s'appelait Hors limite, pardon. Et dont le principe était de parler des artistes qui travaillaient hors des limites. Et je trouvais ça très drôle qu'à Beaubourg, dans un cadre bien défini, institutionnel, on parle des limites dépassées par les artistes, alors qu'évidemment, un musée, c'est tout l'inverse. Donc je suis venu avec une craie et un miroir et je me suis mis devant une caméra de vidéosurveillance. J'ai tracé au sol le champ de vue approximatif de la caméra. Et après, je me suis mis devant la caméra et avec un miroir, j'ai montré à la caméra ce qu'elle n'était pas censée surveiller. Donc elle était hors champ, hors limite, c'est le titre de la performance. Je ne vous cacherai pas qu'évidemment le service de sécurité est sorti, qu'après j'ai fait un courrier à l'ancien directeur de Beaubourg, lui demandant de... si j'avais la possibilité de pouvoir, s'il avait la possibilité de me donner les cassettes vidéo, parce qu'en fait, la seule existence de l'œuvre était dans les caméras, enfin pas dans les caméras, dans les bandes qui avaient enregistré, que les caméras de vidéosurveillance avaient enregistré, et malheureusement, je n'ai jamais pu, j'ai eu une réponse favorable, mais j'ai jamais pu avoir la caméra. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup amusé. Moi, je travaille depuis 1995 sur le sujet. Et au début, on parlait de vidéosurveillance. Et il y a eu un petit glissement sémantique et que vous avez certainement, dont vous êtes rendu compte, c'est que maintenant, on parle de vidéosécurité. Et je trouve ça absolument génial que l'objet de la surveillance soit devenu un objet de sécurité. Voilà, donc tout ça pour dire que le sujet est encore bien, bien riche pour nous. Rapidement, une des premières visites que j'ai fait en minibus, donc c'était une compagnie que j'ai créée, une société qui s'appelle Mabus Paris Visite Tour. Le principe était de permettre à un public de monter dans un minibus et de faire avec une hôtesse qui était là pour faire la description en fait du système de vidéosurveillance dans Paris. Alors ça commençait en fait à l'Assemblée nationale, on vous expliquait en fait la loi sur la vidéosurveillance, le droit que vous avez par rapport à la vidéosurveillance, et après on circulait un peu partout dans Paris. Donc on commençait à l'école des Beaux-Arts, on allait à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous voyez la petite main, après on allait sur l'obélisque de la Concorde, parce que vous savez que l'obélisque de la Concorde, en fait c'est la caméra, alors l'hôtesse se plaisait à dire que c'était la caméra de vidéosurveillance la plus photographiée au monde, puisque tout touriste qui vient à Paris filme et photographie l'obélisque de la Concorde. Et en fait, dans le socle de l'obélisque de la Concorde, il y a une caméra dans un socle, dans un coffrage en bois, qui filme l'avenue des Champs-Élysées pour des raisons de sécurité routière. Et évidemment, la visite est très ironique. On passe par exemple devant des caméras historiques, comme la caméra en fait qui a filmé pour la dernière fois Dodi Al-Fayed et Lady Diana. Donc le minibus s'arrêtait et montrait la caméra en disant « Voilà, vous pouvez regarder, c'est la caméra qui a été, dont les images qu'elle a filmées a été le plus diffusée au monde. » Après, on passait rue Cambon, qui est aussi... je m'amuse quand tout à l'heure vous faisiez le calcul en fait du nombre de bandes qui sont faites, puisqu'en fait, quand on prend la rue Cambon, c'est la rue dans laquelle il y a plus de caméras dans Paris. Et justement, l'hôtesse s'amuse à faire le calcul du nombre d'images qui sont stockées dans la rue, qui était je ne sais plus de combien d'heures d'images. Et là, simplement, la visite guidée se terminait. Alors après, on passait dans les coins historiques de Paris où les premiers systèmes de sécurité ont été mis en place. Et on finissait bien évidemment à la préfecture de police où, depuis que Pasqua est passé au ministère de l'Intérieur, vous avez la possibilité de demander en fait la liste des caméras de vidéosurveillance dans Paris, entre autres. Et évidemment, quand mes 10 visiteurs se pointaient devant le bureau 560, je ne sais plus lequel c'était, au 5e étage, on leur disait toujours qu'évidemment, ce n'était pas possible. Alors après, on a commencé à avoir des embêtements puisqu'on nous a dit ce serait gentil de ne plus envoyer des gens dans le bureau par 10, deux fois par jour, demander les listes des caméras de vidéosurveillance. Alors, je parle juste du vélo, parce que c'est, voilà, après on va passer, parce que sinon ça va être trop long. Ça, c'est le papier peint Hergé, juste pour l'anecdote. Quand j'étais petit, j'avais un papier peint de Tintin dans ma chambre, et Hergé, évidemment, par glissement sémantique, moi aussi, ça devient Hergé des renseignements généraux, et j'ai juste demandé au ministère de l'Intérieur de me donner toutes les photos des ministres de l'Intérieur, les photos officielles, et j'ai remplacé Tintin, Milou, etc., par nos chers Pasqua, Chirac, il a été aussi Jox, Debré, voilà, ça s'appelle donc papier peint Hergé. Bon, je finis juste par ce projet qui s'appelle Contre-projet Panopticon. Quand j'ai commencé à travailler sur la question, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, les caméras, les satellites, en fait, ne peuvent pas filmer à l'intérieur des maisons. Donc, en fait, j'ai fait un premier projet qui consistait à mettre des miroirs à 45 degrés devant des fenêtres pour permettre aux satellites de filmer à l'intérieur et de nous filmer notre visage et non pas tout le temps en plan. Et quand j'ai fait ce projet-là, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire le contre-projet Panopticon. Et le contre-projet Panopticon, c'est juste un jeu de miroirs que vous pouvez voir ici, qui en fait permet au satellite de prendre en photo le miroir qui lui fait face, et celui-ci, ce miroir, ne fait que réfléchir ce miroir-là qui est sur le côté à 45 degrés, qui lui-même ne fait que photographier ce qui se passe à côté. Donc je ne dis pas que ça marche, je dis simplement que c'est une démarche utopique de simplement dire, comme pour vous revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a toujours une solution pour échapper, et en tout cas pour faire prendre conscience que cette surveillance existe.
Alors que Renaud Auguste Dormeuil choisit de placer la surveillance sous surveillance, si j'ai bien compris, et ce qui est hors champ, dans le champ de l'art, Manu Lux, pour sa part, s'intéresse aux vidéos qui sont générées par ces techniques de contrôle. Donc Manu Lux, vous êtes une cinéaste née à Vienne mais vivant actuellement à Londres. Vous êtes la fondatrice d'AmbientTV.net, donc une plateforme artistique de projets d'artistes, et réalisatrice du long-métrage Faceless. Dans votre travail, vous vous préoccupez de l'impact des technologies de surveillance sur la vie quotidienne, les relations sociales et les structures politiques. Donc Faceless, le titre de votre film, signifie sans identité, mais aussi sans personnalité. Vous l'avez réalisé en 5 ans, de 2002 à 2007, uniquement à partir d'images de surveillance récupérées en vertu de la loi sur la protection des données au Royaume-Uni. Donc votre film raconte l'histoire d'une femme vivant dans une société sans passé ni futur, où les humains sont dépourvus de visage. Elle se retrouve paniquée un matin lorsqu'elle retrouve le sien. Donc pourquoi vous êtes-vous emparée du sujet de la surveillance ? Et sur quel processus et quel concept se base votre travail?
Well, I would say I started off as an artist who welcomed the arrival of the internet in the early mid-90s. As a filmmaker, I saw it as an additional.
En tant qu'artiste, j'étais très heureuse de voir l'arrivée de l'internet dans les années 90. En tant que cinéaste, je voyais l'internet comme un nouvel espace disponible pour travailler. L'espace est un lieu d'activité, ce n'est pas simplement un lieu en trois dimensions, mais ça peut aussi être un réseau de communication. Donc je voyais l'Internet comme une nouvelle occasion de travailler avec les comportements.
Behavior can still take place without the regulations which we are experiencing in the real world. So as a filmmaker, I was experiencing two restrictions
Donc j'ai commencé par travailler sur la disparition de justement la définition de l'espace public privé, le fait que ce que l'on voit n'est pas forcément qu'il y a une réalité autre que celle qu'on voit. Ensuite, en tant que cinéaste, j'étais confrontée à la réglementation des possibilités de diffusion qui sont la télévision et le cinéma, et je me suis dit qu'avec ce nouveau réseau de communication, il y aurait des nouvelles possibilités de distribution.
Cinema distribution is like a highly regulated field, and so this was to be challenged. So I wanted to take it even a step further and not only to use the networks.
Donc j'ai fait un pas de plus en allant vers une fusion entre ce nouveau réseau et le cinéma. J'ai décidé j'ai voulu prendre ce qu'il y avait de plus intéressant dans un film classique, c'est-à-dire l'histoire linéaire, et le fusionner avec ce qu'il y avait d'intéressant dans ce nouveau réseau, qui était l'ouverture et la masse d'informations ouvertes. Ensuite, au milieu des années 90, quand il était possible de mettre son propre film sur Internet, j'ai commencé à m'intéresser à comment le public utiliserait cette nouvelle possibilité. Je me suis dit que la télévision classique était entre les mains de quelques personnes, quelques entreprises, et tout d'un coup, n'importe qui pouvait faire son émission sur l'écran. Et je me suis aperçue qu'il y avait en fait trois utilisateurs principaux, étonnamment. Le premier, c'était la pornographie, ce qui est moins étonnant. Mais la deuxième, c'était les caméras météorologiques qui étaient utilisées pour renseigner les travailleurs, les employés, à savoir s'ils devaient aller travailler sur un chantier ou pour que les gens décident s'ils voulaient aller faire du ski. On avait la possibilité de regarder la météo en direct. Et la troisième utilisation était pour surveiller la circulation routière.
Des œuvres que j'ai réalisées s'appelaient resulted which I called Broadbanded Highway. And what I was doing was I wrote a script, a JavaScript, which would hijack the streams of the traffic surveillance cameras from all around the world. Really, you could get those live images from Hong Kong showing the tunnels are free or jammed in Northern Ireland and highways in the States. So that script would capture those images and redivert them into another channel and resize it also to the size of a television image. And every 30 seconds, the image would change and grab a traffic surveillance source from another country. And this piece was ongoing
for
about 5 years until the last of these hundreds of cameras was switched off and the movie was entirely black.
So it was sort of a self-generating
road movie,
which
turned into a 5-year-long
de
piece and consisted entirely of live traffic surveillance cameras. At the same time, I had moved to London, and yeah, we heard already it's the city which boasts.
Parallèlement, je suis allée vivre à Londres, qui est, comme vous avez entendu, la ville où il y a le plus de vidéocaméras au monde. Moi, je venais de Vienne, où il n'y avait pas, en tout cas à l'époque, de caméras de vidéosurveillance, donc j'ai vécu ça comme un choc. Et j'ai dû apprendre à vivre sous l'œil de ce dieu technologique. Et j'ai commencé à me demander pourquoi continuer à filmer en tant que cinéaste, pourquoi continuer à utiliser ma propre caméra. D'une part, parce qu'il est de plus en plus difficile de filmer dans les lieux publics, ce n'est pas seulement des centres sensibles comme le centre financier de Londres où il faut avoir une autorisation spéciale, mais il y a d'autres endroits où on est limité dans ce qu'on peut filmer aussi, par exemple dans un parc. En principe, je n'ai même pas le droit de filmer mon propre enfant sur une balançoire, et cela pour éviter les problèmes avec des pédophiles. On n'a pas le droit de filmer des enfants en public. Donc tout cela représente des efforts supplémentaires qu'il faut faire pour pouvoir filmer. Alors qu'il y a des dispositifs qui sont en place 7 jours sur 7, 24 heures par jour, qui filment déjà.
There's already a mechanism in place which creates the 24-hour, 7 days a week documentation of daily urban life.
Par rapport à ça, en fait, on voit une image de Faceless, justement, donc votre film qui sera projeté après. Peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots sur la façon dont vous l'avez réalisé, justement.
Yeah, so I was looking for a way of getting access to these images, also.
Donc, j'ai cherché des moyens d'avoir accès à ces images. Vous savez qu'en principe,
Les images des caméras de surveillance eh bien, ne sont observées que par les équipes qui manipulent les caméras de surveillance. Si bien que, eh bien, en 2001, la directive européenne sur la protection des données est entrée en vigueur en Angleterre, donc est entrée dans l'arsenal législatif britannique. Et l'objectif de cette directive était de donner un meilleur équilibre entre, d'une part, ceux qui collectent ces données et, d'autre part, ceux qui sont filmés au quotidien et qui apparaissent sur les images de ces vidéos. La nouvelle loi britannique adaptée donnait un droit d'accès aux personnes qui étaient filmées, donc un droit d'accès à ces images, et ce qui signifie que les données pouvaient être retrouvées et pouvaient être fournies à toute personne qui était filmée et qui apparaissait sur les images des caméras de surveillance.
And since CCTV images are time coded and stored and retrievable according to place and time data, they also fall into this legislation. Before we get too much carried away with the discussion about how to use the image, I would just like to point out that in the case of Faceless, it was really very much the process of retrieving the image, which was in the core of the whole project.
Alors, avant qu'on s'emballe sur le sujet de l'utilisation des images, je voulais rappeler que Faceless a principalement trait au processus qui consiste à retrouver les images. C'est ça qui est au cœur de notre projet. Il ne s'agit pas de la production et de l'interprétation des images à proprement parler, mais plutôt du lien un peu flou qui existe entre le fait et la fiction. C'est autour de ça que c'est là-dessus que réside mon projet. En effet, ces images ont pour objectif d'être utilisées dans les tribunaux, notamment. Ce sont des images qui sont ouvertes à interprétation, et c'est justement ça qui pose problème, comme vous le savez tous, ou qui peut poser problème du moins. Donc, mon projet qui consistait à réclamer mon image, à faire valoir mon droit à ma propre image au sein, dans cet univers de caméras de surveillance privée, c'est justement ce sur quoi j'ai voulu travailler. Et pour ce faire, il m'a fallu analyser un corpus législatif, des lois, des extraits de lois qui envoient pour message que ne vous inquiétez pas, tout est organisé, c'est en tout cas, il y a une réglementation, c'est entouré de règles extrêmement strictes qui ont, et le message sous-jacent, c'est de rassurer le public à ce sujet. Donc, mon projet donc Faceless s'accompagne également d'un essai qui retrace un peu les 5 ans de lettres que j'ai envoyées à ces organismes, et l'essai lui-même s'appelle Chasing Data Shadow, qui veut dire en quête des ombres de données, en quelque sorte, et qui est téléchargeable sur mon site internet. Donc voilà, mon objectif, c'était un peu de révéler le hiatus qu'il y avait entre la théorie juridique et la pratique.
Max, si vous voulez, au final, c'est la liberté de justice que vous sortirez, vous en faites pour l'été chez vous. Donc, mais il faut repenser à certaines petites choses, qui ne sont pas grand-chose, et ça peut aider tout le monde. Par exemple, éviter d'avoir des parapluies. Oui, s'il pleut. Alors, c'est pas. Bon, il y a des gens qui ont des carrés, ça se passe très bien, donc c'est un petit effort. C'est quand même pour le bien de tous, au final. Alors voilà, le petit. Si vous l'avez en constat, il n'y a pas de problème.
Alors, nous avons Olivier Perrou, donc du collectif Art is Not Dead, qui est dans la salle, s'il souhaite réagir.
Donc, on voudrait savoir s'il y a un bébé, ou si c'est des armes, ou de la drogue.
Olivier, oui, si vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément votre action.
Oui, alors bon, effectivement, on est assez pressé. En fait, l'objectif, il était assez simple, c'est qu'on partait d'une idée qui est un véritable projet, qui est en fait de mettre des drones pour surveiller la Seine-Saint-Denis, bon, qui est un petit peu caricatural, parce que derrière le prétexte de la sécurité, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui est visé. Bon, nous, on pense qu'il y a une forme de stigmatisation, bien sûr, de la Seine-Saint-Denis, et qu'utiliser une technique militaire pour de la surveillance civile, effectivement, c'est pas tout à fait neutre vu le contexte. Sauf qu'on n'avait pas tellement envie de faire un discours là-dessus, puisqu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. L'idée, c'était tout simplement de faire un petit peu, enfin, d'interroger les gens sur l'objectif de toutes ces techniques de sécurité, que ce soit les caméras de surveillance ou ici, donc, les drones, en créant une situation totalement absurde, puisqu'en fait, il fallait quand même arrêter de courir, renoncer au parapluie. Enfin, donc, vous avez reçu un petit prospectus. Effectivement, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont quand même difficiles à appliquer, arrêter de faire du vélo, enfin, des choses qui sont quand même très, très élémentaires. Et le deuxième objectif, si vous voulez, c'est de voir jusqu'où, finalement, va, on va dire, le conditionnement via la sécurité. C'est-à-dire que, bon, là, on n'a vu qu'un extrait, mais la plupart des gens, d'une part, ont pris l'information au premier degré, alors, bon, je ne sais pas si on était extrêmement crédible, mais c'est quand même étonnant que... on n'avait pas de carte ni rien, que donc ils croient qu'il fallait renoncer à tout ça sans trop s'interroger. Et en fait, une grande partie était plutôt pour. Bon, ils trouvaient que c'était un peu bizarre, que c'était quand même un peu restrictif, parce que si on doit renoncer à tout ça, c'est quand même un peu gênant. Mais ça ne les dérangeait pas tellement plus que ça. Donc c'est aussi donc, d'attirer un petit peu l'attention sur finalement ce forme de conditionnement qu'on intègre tous, quoi. Donc voilà un petit peu, hein, les objectifs de cette action.
This is the story of a woman haunted by an echo of a memory. A dislocated dream in which the past telescopes into the future. She has no understanding of these images that revisit her, that take her out of real time, out of her role in the new machine. Only later will she recognize them as nostalgia and resentment.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci notamment à nos deux interprètes, hein, et à Olivier Perroux. Et rendez-vous sans doute l'année prochaine pour un troisième cycle Art Espace Public.
Vous écoutiez Espace Public sous contrôle, les artistes veillent, dernière émission du cycle Art Espace Public. Cette rencontre débat a été enregistrée le 28 mars 2008 à la Sorbonne. Vous avez pu y entendre Renaud-Auguste Dormeuil, plasticien, Eric Hellmann, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg, Manu Louche, artiste, réalisatrice du film Faceless, et Nicolas Telli, auteur de « Vue à la webcam », essai sur la web intimité, paru aux presses du Réel. Merci aux étudiants du Master Projet culturel dans l'espace public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Pascal Lebrun-Cordier. Cette série d'émissions, réalisée par Xavier Thomas pour Radio Grenouille, sera rediffusée au cours de l'été 2008 sur les ondes de Radio Campus Paris. Vous pouvez les réécouter sur le site www.grenouille888.org et consulter les dossiers thématiques réalisés par les étudiants sur le site www.art-espace-public.ca.la.
She emerges from its spell. The pulse of real time impels her again.
Il est fondamental que chacun d'entre vous choisisse en précisant ce que vous désirez changer. Si vous marchez à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose. Et cette chose, nous pouvons vous la fournir.